Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans les ateliers radiophoniques. Depuis plus de 4 ans, Canal B travaille très régulièrement avec l'association Langue et Communication et vous avez pu entendre ici des émissions réalisées avec des personnes migrantes venues d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran, d'Irak, de Géorgie, d'Ukraine, du Mexique, d'Argentine, du Soudan, d'Érythrée, du Maroc, de Mongolie, de Thaïlande et d'autres pays encore. J'espère que celle que vous entendrez aujourd'hui ne sera pas la dernière, qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Langue et Communication est un organisme de formation associative spécialisé dans l'enseignement du français aux personnes étrangères et d'origines étrangères, qui fête aussi cette année, comme Canal B, ses 40 ans. Mais au-delà de notre année de naissance, nous partageons bien plus. Nous partageons des valeurs qui nous semblent élémentaires et qui pourtant aujourd'hui s'amenuisent, voire disparaissent. Des valeurs humanistes, philanthropes, de solidarité, d'entraide, de partage, de soutien, d'accompagnement. Des valeurs d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, d'ouverture à toutes et tous, quelle que soit leur couleur de peau, la texture de leurs cheveux, quelle que soit leur religion, leur histoire, leur parcours, leur niveau d'études, leur niveau de français, leurs opinions politiques. Depuis 4 ans, Langue et Communication m'a permis, au travers des ateliers radiophoniques, de rencontrer des personnes extraordinaires, quel que soit le pays d'où elles viennent, quelle que soit la couleur de leur peau, leur religion, leur parcours, des personnes cultivées, diplômées, passionnées, intéressées et intéressantes, généreuses, des personnes au parcours parfois dramatique que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, des personnes résilientes auprès desquelles j'ai beaucoup appris. Je voulais leur dédier cette émission, la dédier également à toutes les formatrices de Langue et Communication, à Anaïs Hiver et Bérangère Pichon en particulier, les remercier toutes et tous et faire le vœu qu'on entende encore sur cette antenne leurs voix et leurs histoires.
Bonjour, nous sommes un groupe d'apprenants de la langue française au sein de l'association Langue et Communication à Rennes.
Avec notre formatrice Anaïs Hiver, nous avons travaillé sur l'initiative citoyenne européenne « Garantir un accueil digne de migrants en Europe ».
Cette initiative s'appelle « Dignité en Europe ».
Nous avons notamment réfléchi à la façon dont les gens sont accueillis en France.
Chacun à chacune d'autre, nous a choisi un sujet sur lequel on voulait parler, comme le logement, la procédure Dublin.
L'accès à la santé et l'éducation, les équivalences des diplômes pour pouvoir travailler.
La connaissance de nos droits aussi.
Nous avons aussi réalisé des interviews, celle de Anaïs Allard, chargée de mission Europe au service international de la ville de Rennes et de Rennes Métropole.
De Stéphanie Pope, responsable Europe au service international de la ville de Rennes et de Rennes Métropole.
De Carence Vauclisot, qui a fait un tour d'Europe à vélo.
Et de Chloé Levacan, responsable de l'accueil à langue et communication.
Nous pensons que pour un accueil digne, il faut, dans l'ordre, l'accès au logement, à l'alimentation, à la santé.
À l'éducation, puis au travail, à la culture et la vie sociale.
Bonjour, je m'appelle Elena et je viens d'Ukraine. Je suis arrivée en France en 2023 avec mon fils. Après notre arrivée avec ma famille, nous avons été envoyés dans une petite ville près de Rennes, Guipry-Missac. Nous avons adoré cette belle ville calme sur la rivière Vilaine. L'assistance sociale a été très respectueuse et elle nous a aidés pour tout. La maison était dans le centre-ville. La première assistance sociale que nous avons eu s'appelle Melinda. Elle nous accompagnait, mon fils et moi, à la préfecture. Melinda nous a aidés à préparer tous les documents pour demander le statut de réfugié. Nous avons profité de la gratuité des transports à Rennes et de rééducation sur les trains. Qualia est une organisation sociale qui nous a fourni un logement gratuit à Saint-Grégoire. J'ai pris des cours de français au CLPS qui était à Guipry-Missac. Mon fils a été au collège de Guipry-Missac. je voulais apprendre à parler français pour l'intégration et le travail. Je sais cuisiner des gâteaux délicieux. Je vais ouvrir un petit café pour que les gens puissent déguster de la nourriture délicieuse. Je vais rester en France car j'aime la culture, l'éducation, les croissants, les pâtisseries, les quiches, la cuisine française et le charme des Français et la vie française du quotidien. Nous sommes reconnaissants de la France pour l'accueil chaleureux.
Bonjour, je m'appelle Nada, je suis géorgienne. Je suis arrivée en France en 2018. En Géorgie, je suis diplômée de journalisme. Avec le groupe d'apprenants à langue et communication, nous avons parlé de la pétition Dignity in Europe pour un accueil digne de migrants dans l'Union européenne. Nous avons parlé de valeurs de l'Union européenne. Je suis géorgienne et j'aimerais que la Géorgie rentre dans l'Union européenne. Il y a quelques semaines, le gouvernement géorgien a voté une loi qu'il s'appelle les agents de l'étranger. Cette loi existe déjà en Russie. C'est un texte dirigé contre les ONG et les médias indépendants ou d'opposition. C'est très autoritaire. C'est une loi qui permet de censurer tous les médias ou le projet de qui ils sont financés par des étrangers à hauteur de 20%. Depuis 3 mois maintenant, il y a de nombreuses manifestations à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Contre cette loi pro-russe, le gouvernement a utilisé des bombes lacrymogènes et a capturé des manifestants. Ce gouvernement est autoritaire et pro-russe. Mes amis ont manifesté et ne toléreront jamais cette loi car la Géorgie est un petit pays et c'est dangereux de rester sans allié. Ils préfèrent être dans l'Union européenne qu'avec la Russie. Intégrer l'Union européenne, c'est protéger les intérêts et de liberté et en vision du monde avec la possibilité d'exprimer son opinion sans objection. Pour moi, c'est important de vivre tel que nous sommes censés cacher. Certains Géorgiens pensent que la Russie est notre ami, mais il n'y a pas beaucoup. La plupart des Géorgiens vont manifester jusqu'à ce que cette loi soit supprimée. La présidente de la République de Géorgie, Salomé Zourabichvili, a mis son veto contre cette loi, mais cela n'a pas suffi. J'espère que dans quelques années, la Géorgie intégrera l'Union européenne et que les enfants et les gens pourront partager des valeurs de droits humains avec d'autres pays pour que le pain soit partout en Europe.
Merci Nata.
Bonjour, je m'appelle Randa, je suis libanaise, je suis infirmière. J'ai 16 ans d'expérience, je suis arrivée en France il y a 2 ans avec ma fille. Ma fille est venue avec un visa étudiant pour étudier à la faculté de pharmacie et moi je suis venue avec un visa temporaire long séjour visiteur. Avec ce visa temporaire, je ne peux pas exercer ma profession en France. Je n'ai pas le droit de travailler. Pour faire ma demande de titre de séjour, j'ai dû payer beaucoup d'argent à la banque. Il y a une crise économique dans mon pays. En fait, 100 000 livres libanaises valent 1 dollar, alors qu'avant, 1 500 livres libanaises valaient 1 dollar. Le coût de la vie est très cher en France. Pour renouveler mon séjour, je dois payer un timbre qui coûte 270 euros chaque année. Je suis obligée de rester près de ma fille jusqu'à la fin de ses études. J'aimerais avoir un titre de séjour de 5 ans directement et j'aimerais pouvoir travailler pour financer ma vie en France.
Merci Randa, garde ton micro et on va discuter d'abord du Liban. Effectivement, depuis 2019, il y a une crise économique sans précédent. La livre libanaise perd 98% de sa valeur. Il y a eu cette atroce explosion dans le port de Beyrouth en août 2020 Et puis, il y a cette crise, cette instabilité. Puis aujourd'hui, le Hezbollah dans le sud Liban qui se bat contre Israël. C'est compliqué.
Oui.
Et puis, deuxième chose, tu es infirmière, tu voudrais travailler et tu ne peux pas parce que ton titre de séjour, le visa que tu as pour accompagner ta fille.
Mais encore, il faut faire de l'équivalence de mon diplôme encore.
Ouais, il faudrait que tu aies l'équivalence de ton diplôme. Il faut donc que tu passes des diplômes aussi en français, pour ça que tu atteignes le B1. Il
oui.
y a une administration qui te fournit une attestation de reconnaissance de ton diplôme étranger appelée attestation de comparabilité. Donc on compare ton diplôme d'infirmière au Liban avec le diplôme d'infirmière en France. Ce qui est regrettable, c'est que on manque d'infirmières et que toi, tu as envie de bosser et que voilà, la lourdeur de l'administration ne te permet pas pour l'instant de travailler.
Et plus en la crise économique au Liban, et encore, il y a beaucoup de monde qui est palestinien et des mondes syriens. Et encore pas d'électricité, pas de l'eau, et c'est problème pour la monde libanaise encore.
Ouais, au Liban, il y a une immigration syrienne qui a fui la guerre, il y a une immigration palestinienne, ouais. C'est des millions de personnes qui sont venues se réfugier au Liban.
Non, syriennes 3 millions et palestiniennes encore 2 500 000.
Ouais, c'est ça, c'est des millions, ouais, des millions de personnes. C'est même peut-être plus que la population du Liban.
Oui, oui.
Ouais. Oui. Sur les 6 millions d'habitants du Liban, c'est plus de la moitié.
Mais encore, il y a des problèmes que les camps de Syriens, tous les déchets dans la mer.
Dans des camps, dans des conditions lamentables. Ouais, c'est très compliqué la situation du Liban et avec ce qui se passe dans le sud Liban, ça va pas forcément s'arranger.
Oh oui, oui. Ouais. À ce moment, la guerre est plus augmentée qu'avant.
Mmh. Oui. Très bien, merci Randa.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On va écouter le groupe Carte de Séjour avec la reprise du titre Douce France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire. Souvenir familier, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Ce poème, oui je t'aime, dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,
France, reprise du groupe Carte de séjour sur Canal B dans l'émission de langue et communication.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour, je m'appelle Frishta, je viens d'Afghanistan. Je suis arrivée en France avec mes 3 enfants en 2018. J'habite alors dans la ville de Quimperlé. Nous avons un vieux voisin qui était très grossesse. Chaque fois que les enfants allaient à l'école ou sortaient, ils guettaient à la maison et criaient après les enfants. Ils disaient qu'il y a avant beaucoup de bruit. J'ai regardé alors d'autres voisins venus en France après que je pense que tout le français était comme lui. J'avais peur de sortir et je ne parle à personne, je ne me sentais pas bien. J'en ai parlé à l'assistante sociale et je me aussi sentais mieux. J'ai compris qu'il y a avant des Français qui n'aimaient pas les étrangers et le musulman, surtout mon vieux voisin à Quimperlé, était raciste. Après 6 mois, j'ai déménagé dans la ville de Rennes. Mes voisins sont très gentils et je suis très heureux d'être venu ici.
Toi, Frishta, tu as regretté à cause de ce vieux voisin grossier qui s'en prenait à tes enfants, tu as regretté d'être venu en France quand tu étais à Quimperlé. Tu t'es dit, la France, il n'y a que des gens grossiers, on va dire, pour ne pas dire racistes, oui. C'est ça?
Oui, oui.
Et quand tu es venu à Rennes?
Oui, c'est gentil.
Tes voisins, oui. Aujourd'hui?
Oui, gentil, et je suis très heureuse.
Et tu es très heureuse d'être là parce que tes voisins sont gentils.
Oui.
Et que donc, tu as vu que tous les Français n'étaient pas comme ton vieux voisin.
Ouais. Non, c'est juste.
Heureusement.
Juste.
Super, merci Frishta. Qui a envie de lire?
Bonjour, je m'appelle Mirfat, je suis syrienne. Je suis arrivée à Paris avec ma famille en 2022. Je suis descendue de l'avion et en personne sympathique de l'organisation Qualia nous a accueillis. J'étais très fatiguée. Nous avons d'abord habité à Saint-Malo, une ville magnifique au bord de la mer. Je ne parlais pas français. J'étais complètement bordeaux. Je ne savais pas comment consulter en médecine. Alors que j'ai 10 enfants, nous avons rencontré une personne de Qualia qui nous a aidés à m'inscrire en cours de français.
Merci Mirfat.
Bonjour, je m'appelle Lamia, je suis syrienne, je suis en France depuis 2018. 2 mois après mon arrivée en France, je voulais faire les courses. J'attendais le bus, place de la République. Une femme a essayé de m'enlever le voile et m'en insulter. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, car je ne parlais pas bien le français. Des gens m'ont aidé. Ils ont éloigné la femme de moi. Pendant des mois, je ne suis pas sortie de chez moi seule. J'avais peur d'aller dans la rue toute seule.
Et Lamia, on a discuté quand tu as raconté cette histoire de cette femme qui t'agresse à République en essayant d'enlever ton voile. Et je t'ai expliqué que c'était une agression et qu'elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Elle était dans son tort, que toi, tu avais le droit d'aller dans la rue en France, dans les magasins, où tu veux, avec ton voile. Tu peux aller où tu veux, c'est juste quand tu es fonctionnaire, quand tu travailles pour l'État, que là, il faut enlever ton voile, ta kippa, ta croix, et ne pas montrer de signes ostentatoires.
Canal B 94.0.
Bonjour, je m'appelle Elvis. Je viens de pays d'Europe. Je suis arrivé en 2017 avec ma famille. À mon arrivée, je ne parlais pas français. Je communiquais en anglais. Ça a freiné mon apprentissage de français. Le premier contact avec les cours de français, c'était à Vannes. On a étudié 2 heures par semaine. Cela n'a pas duré beaucoup car nous avons déménagé à Rennes à cause de procédures administratives. On a tout recommencé à zéro dans une nouvelle ville. On a cherché un centre d'apprentissage du français. Ma femme a fait des recherches sur Internet et a contacté à l'université de Rennes 2 pour savoir si elle pouvait reprendre les études. Elle s'est inscrite au CIREF. Elle a étudié pendant 3 semestres la nouvelle A2, B1, B2, puis elle a obtenu le DELF B2. Cela lui a permis de reprendre ses études à l'université de Rennes 2 en information et communication. Pendant ce temps, j'ai fait des bénévolats au Secours catholique et en même temps, je prenais des cours de français dans cette association 2 fois par semaine. Ce n'était pas suffisant, mais j'ai donné la priorité à ma femme de suivre ses études et je me suis occupé de mon fils. Puis le Secours catholique m'a orienté vers langue et communication où j'ai suivi les cours de français A2. Maintenant, j'ai repris le cours à langue et communication, le français en radio, pour parler français. J'ai trouvé que ce n'est pas facile de trouver des cours de français à Rennes. Merci à tous les professeurs qui nous ont beaucoup aidés dans notre parcours.
Je m'appelle Randa, j'ai lu le texte de Safa parce que Safa, elle n'est pas là. Bonjour, je m'appelle Isafa, je suis soudanaise, j'ai 2 enfants, le premier à 4 ans et le deuxième à 1 an et 9 mois. Je suis arrivée en avril 2018, j'ai cherché une crèche en 2020 pour mon fils. Je n'ai pas trouvé, je suis restée à la maison pour le garder pendant 2 ans. Et pour mon deuxième fils qui a 1 an et 9 mois, je n'ai toujours pas de place. Il va à la halte garderie, c'est très cher et pas pratique car elle n'est pas toujours ouverte. Pendant tout ce temps, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu apprendre le français. J'ai besoin de travailler parce que la vie en France est très chère, surtout depuis 2023. Le prix de la nourriture a beaucoup augmenté. Je veux apprendre le français pour aider mes enfants dans leurs devoirs. J'aimerais faire une formation pour trouver un travail. J'aimerais qu'il y ait plus d'associations pour garder les enfants.
Bonjour, je suis Léonard. J'ai été service civique à Canal B cette année et j'ai notamment suivi les ateliers radio à langue et communication. Et je vais vous lire aujourd'hui le texte d'Afezoula qui est arrivé en France en juin 2022 depuis l'Afghanistan. Ce qui m'a stressé en France, c'est la procédure de Dublin. Je vous explique ce que c'est. C'est un accord de l'Union européenne qui détermine quel pays est responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée dans l'Union européenne. Elle vise à éviter que les demandeurs d'asile déposent des demandes multiples dans plusieurs pays. Le premier pays dans lequel un demandeur d'asile arrive est responsable de sa demande. Et moi, quand je me suis fait arrêter par des policiers en Italie, j'ai été obligé de m'enregistrer en Italie alors que je voulais aller en France. Donc, je dépendais de l'Italie pour ma demande d'asile et pas de la France. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis enregistré avec la procédure de Dublin. Au bout de 6 mois, j'ai été convoqué par l'Italie. J'étais stressé, j'avais peur. La préfecture m'a interdit de sortir de Rennes. Je devais aller à l'aéroport de Rennes 2 fois par semaine pour signer. C'était obligatoire. Si je manquais une seule signature, la préfecture arrêtait toutes mes démarches administratives. Je n'ai jamais manqué une seule signature. Je voulais apprendre la culture française en visitant le pays, en sortant de la ville, mais je n'ai pas pu le faire. J'étais déprimé. J'avais toujours peur que l'administration française me renvoie en Italie et rejette ma demande. Je n'ai jamais essayé d'apprendre la langue française car j'étais sûr de retourner en Italie et que pour moi cela ne servirait à rien. Je ne voulais pas me faire d'amis. Je restais toujours seul. Aujourd'hui, ça va mieux. J'aimerais que la procédure de Dublin soit supprimée parce que cela empêche des personnes d'apprendre la langue, de s'intégrer dans la société, de travailler et cela isole les personnes. Et c'est déprimant.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On écoute Abdal Malik, Gibraltar.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante. Dis enfin, je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence !» Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar et change ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche.
Abdal Malik et son titre Gibraltar sur Canal B. Retour à Langue et Communication où les apprenants vous proposent à présent des interviews.
Bonjour, nous préparons une émission de radio avec Canal B sur Dignity in Europe ou l'accueil de migrants en Europe. On aimerait vous poser deux questions. La première question, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Anaïs Allard, je suis chargée de mission Europe au service international et Europe de la ville de Rennes et Rennes Métropole.
Bonjour, je suis Stéphanie Pop, je suis responsable Europe au service international et Europe de la ville de Rennes et de Rennes Métropole.
Pouvez-vous nous expliquer Dignity in Europe ?
Dignity in Europe, c'est un très grand projet qui a débuté il y a 2 ans. Au départ, c'est la ville de Rennes qui voulait parler d'Europe avec les habitants et puis aussi proposer de se connecter avec l'Union européenne, qui est souvent très éloignée des citoyens dans la ville. Et alors, on a décidé de proposer aux citoyens de porter une initiative citoyenne européenne. C'est un peu un outil de démocratie participative où on demande à l'Union européenne, faites ça, changez les lois, parce que ce qui se passe, ça ne va pas. On a lancé cette initiative et on s'est dit aux Rennais de choisir le sujet. Il y a eu plusieurs ateliers, les Rennais ont proposé leurs idées. Et ensuite, les Rennais ont voté pour savoir quelle était l'initiative citoyenne qui allait être portée au niveau européen, qui allait être soutenue par tout le monde, par la ville, par les associations, par les citoyens. Et celle que les Rennais ont choisie, c'est celle pour un accueil digne des migrants en Europe. Et tout le monde est parti en campagne. ensemble, chacun a fait ses actions. Nous, à la ville, avec la maire, on a porté le sujet auprès de la Commission européenne, auprès de toutes les institutions européennes. Voilà, c'est un projet où tout le monde s'est investi, la maison de quartier, les habitants, et chacun a participé pour cette cause.
Pourquoi la ville de Rennes est engagée dans ce projet ?
La ville de Rennes, comme beaucoup de villes en Europe, accueille en fait des personnes qui arrivent en Europe et a souhaité s'engager pour que les lois changent et pour qu'il y ait un certain nombre de lois que la ville considère comme injustes ou comme, en tout cas, n'allant pas dans le sens d'une meilleure égalité ou d'un meilleur accueil. Et la ville a souhaité s'engager pour que l'Union européenne puisse changer un certain nombre de lois, de manière à ce que les pays eux-mêmes puissent changer leur législation, changer leurs lois, et que ensuite, jusque dans les villes, ça redescende dans les territoires, dans les villes, pour qu'on puisse avoir des moyens, des outils, des solutions, peut-être de l'argent aussi, pour pouvoir accueillir, mieux accueillir les personnes qui arrivent en Europe et qui n'ont pas forcément les mêmes droits que, enfin, des droits assez simples, comme vous avez déjà parlé, le logement, enfin, en tout cas pas simple, mais en tout cas de base, en fait, que tout le monde devrait avoir pour être digne, le logement, l'éducation, la santé, le travail, etc. Et donc, pour la ville, c'était important de s'engager pour, parce que c'est un vrai, une vraie politique, en fait, que mène la ville.
Quels sont les premiers résultats ?
On est en train de travailler sur un bilan, là. Bah, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un résultat de ce qu'on a lancé il y a 2 ans. Après, concrètement, cette initiative citoyenne européenne, c'était une pétition qui était en ligne sur Internet. Et on a fait voter les gens pour cette pétition. Et il fallait recueillir 1 million de signatures dans toute l'Europe, dans plusieurs pays en Europe. Mais ça, on n'a pas réussi parce qu'on a réussi à obtenir 15 000 signatures. Mais néanmoins, il y a plein de choses, en fait, dans cette campagne. Comme on a fait beaucoup de choses à Rennes, avec les associations, avec les collégiens, avec les citoyens, avec les étudiants, en Europe aussi. On a aussi fait des choses à l'échelle européenne. On est allé plusieurs fois à Bruxelles pour parler de cette initiative citoyenne européenne et pour dire qu'à Rennes, il y a des citoyens qui souhaitent que les choses changent sur cette thématique. Un des objectifs aussi, c'était que à Rennes, les citoyens comprennent un peu mieux comment fonctionne l'Union européenne, les institutions, comment on pouvait se saisir d'un outil démocratique comme l'initiative citoyenne européenne pour changer les lois, et donc l'intérêt aussi peut-être d'aller voter aux élections européennes, parce que c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Donc c'était aussi cet objectif-là de faire un peu plus de débats autour de l'Europe en local ici à Rennes. Il a été aussi rempli, par exemple, avec ça.
Et quelles sont les actions de la ville de Rennes pour l'accueil des personnes migrantes ?
Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a l'accueil, l'hébergement. Voilà, parce qu'il y a différents types d'hébergement. Il y a l'hébergement classique et puis il y a l'hébergement aussi d'urgence. Alors, la ville et la métropole ont mis en place un système où ils peuvent loger, ça pourrait paraître peu, mais ce qui est beaucoup à l'échelle d'une ville, un dispositif qui est mis en place en lien avec la préfecture, parce que c'est la compétence de l'État, ça. Donc la ville, elle fait avec ses moyens en mettant une part de son budget, alors que c'est pas sa responsabilité, mais elle le fait.
C'est 900 personnes.
900 personnes, ouais.
200 familles, 900 personnes.
Pour 40 millions d'euros. Après, c'est sûr que c'est toujours insuffisant. Et c'est pour ça que les villes, et il n'y a pas que Rennes, il y a les autres villes françaises qui aussi se battent pour avoir plus de moyens, ou du moins que l'État les aide à faire plus, quoi. Et que ce soit plus harmonieux, quoi. Qu'il n'y ait pas une ville qui est tout, et puis que d'autres ne prennent pas leur part et ne jouent pas leur rôle dans l'accueil. Après, il y a aussi l'hébergement pour les personnes en difficulté. Et la ville est l'une des premières en France à offrir le plus de logements pour les personnes vulnérables, comme on dit, les personnes qui n'ont pas les moyens. La construction de logements sociaux, c'est assez conséquent à Rennes. Et, voilà.
Et on peut citer aussi, bah, par exemple, Langue et Communication, c'est une association qui est soutenue par la ville, par exemple. Si Langue et Com peut fonctionner comme ça, c'est parce que la ville, bah, par exemple, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui appartient à la ville. Il y a des subventions qui sont données tous les ans. Il y a des projets qui sont financés par la ville. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc là, Stéphanie a parlé du logement. Là, sur l'aspect apprentissage du français, la ville aussi soutient.
Que pensez-vous de l'accueil réservé aux migrants en France ?
Est-ce qu'il y a un pays idéal pour l'accueil des migrants ? Je ne suis pas sûre, mais clairement, effectivement, ce n'est pas digne des valeurs européennes, des valeurs françaises.
Moi, je trouve qu'en France, au niveau politique, c'est souvent instrumentalisé. Enfin, je ne sais pas comment dire ça simplement, mais on se sert un peu de cette thématique pour faire peur aux gens, alors que c'est une richesse, en fait, d'avoir des gens qui viennent de partout, qui viennent avec leur histoire, avec leur diplôme, des gens qui ont plein de savoir-faire. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas davantage à intégrer, en fait, parce que moi, je trouve que c'est une richesse. Enfin, c'est personnel, quoi, comme avis. Et en France, on fait effectivement mieux que dans d'autres pays, mais on sent bien qu'il y a un enjeu un peu politique. On essaye de faire peur aux gens en disant, attention, des étrangers arrivent et...
Qu'il faudrait le faire pour une meilleure accueil.
C'est, je pense, vraiment une question de moyens, mais c'est aussi une question sans doute de valeur. Quelle valeur on veut porter en tant que, en tout cas, Union européenne, mais aussi d'autres pays dans le monde. La condition pour les personnes exilées n'est pas enviable ni aux États-Unis, j'imagine, pour les Mexicains, par exemple. Mais quelle valeur on défend ? Et surtout... Parce qu'au-delà des moyens, il y a aussi une volonté de ne pas accueillir. Moi, ce que j'essaye à chaque fois de préciser, c'est qu'on est dans une vision de privilégié vis-à-vis des personnes migrantes et des exilés, en pensant que nous, on ne sera jamais concernés par ça. Donc, c'est de la faute aux exilés. S'ils sont exilés, ils n'avaient qu'à pas naître là où ils sont nés. Et nous, on est à l'abri parce qu'on vit bien. Mais c'est aussi peut-être se tromper parce que qui peut dire que demain, nous-mêmes ne serons pas exilés ? On a l'air à l'abri, mais la crise climatique ne met à l'abri personne dans le monde pour un jour être obligé de partir de chez soi. Et si on ne se rappelle pas les valeurs qu'on avait quand d'autres étaient concernés, eh ben, on le paiera, j'imagine. Mais bon, c'est... Et puis, le droit à l'exil, c'est un droit fondamental, c'est un droit international. Donc, il faut toujours se rappeler ça. Tout le monde a le droit à l'exil et tout le monde a le droit à être accueilli dignement quand il doit partir de chez lui. Les droits humains s'appliquent à toutes les personnes du monde.
Il y a plein de choses, mais en discutant, moi, je ne suis pas spécialiste, mais en ayant travaillé un peu sur ce sujet, en discutant avec des gens, je pense que la question du logement... C'est quand même une question très importante parce que quand la personne ou la famille a un lieu, se sent en sécurité, eh ben elle pourra ensuite faire des démarches et scolariser les enfants, commencer à discuter avec, s'intégrer dans un quartier, s'intégrer dans une ville, pouvoir avoir ses repères.
Ah ben, merci pour votre réponse.
Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui apprennent le français à Langue et Communication.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Garance Foglizo, j'ai 24 ans et j'ai fait mon master en droit à Rennes et c'est comme ça que j'ai découvert l'initiative Dignity in Europe et je suis française et britannique.
Pouvez-vous nous expliquer votre tour d'Europe à vélo ?
Oui, tout. J'étais impliquée dans l'initiative Dignity in Europe. Ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré beaucoup les collégiens, les associations, des juristes qui travaillent pour cette campagne. Le moment venu où elle a été enregistrée et il fallait recueillir 1 million de signatures, j'ai eu l'idée d'aller parler directement aux citoyens ou à des associations en Europe. Et je suis partie de juillet 2023 à décembre 2023. Et c'était 5 mois sur 13 pays, et je crois que je suis allée dans 40 villes différentes. Et j'ai pas tout fait en vélo. J'ai vraiment que fait certaines étapes en vélo. Souvent, c'était des étapes de 3-4 jours maximum. Et les longs voyages, je les ai faits en train. Et voilà, et à chaque ville, je rencontrais différents types de personnes, des personnes immigrées, des étudiants, des militants, des avocats ou des personnes dans les municipalités.
Combien de pays, avez-vous visité?
Je me suis trop avancée, mais du coup, j'ai visité 13 pays. J'ai commencé en Allemagne et en Pologne. Je suis descendue par les Balkans jusqu'en Grèce. Et après, j'ai longé la Méditerranée jusqu'au Portugal.
Combien de personnes avez-vous rencontrées?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je connais le nombre d'associations. C'était à peu près 120 associations ou 120 groupes. Mais parfois, je suis intervenue dans des universités où il y avait, je sais pas, 40, 50 personnes à la fois. Je pense plusieurs centaines de personnes, un peu officiellement. Et après, il y avait toutes les personnes que je rencontrais par hasard.
Comment avez-vous été accueillie?
J'étais très bien accueillie. Déjà sur le thème, moi j'ai pas eu de grands débats sur l'immigration, j'ai pas eu de personnes colériques sur ces questions-là. Les personnes que je rencontrais, c'était soit des personnes immigrées, soit des personnes qui travaillaient souvent en contact avec des personnes immigrées. Donc c'est des personnes qui connaissaient bien la réalité des situations et qui ont été très positifs pour l'initiative Dignity in Europe. Et même les gens que je rencontrais par hasard, moi j'ai pas eu, face à moi, des personnes qui décriaient l'accueil digne.
Et quel était votre objectif?
J'avais deux objectifs. Le premier, c'était de recueillir des signatures pour l'initiative. Ça a été le plus difficile. Ça a été vraiment un challenge. On a que recueilli 15 000, 16 000. Enfin, en vrai, c'est déjà des grands nombres, mais c'est très petit par rapport à notre objectif de signature. Et le second objectif, c'était témoigner, de voir comment étaient les différentes conditions d'accueil dans les différents pays. Et je suis en train de le finir dans un petit livre, 15 de leurs propositions. Il y a des choses qui existent déjà dans d'autres pays, des choses que juste eux ont proposées. Et voilà, et ces 15 propositions sur comment on pourrait améliorer le droit européen pour l'accueil. Donc ça va bientôt, il paraîtra bientôt ce livret.
Quel est le pays d'Europe qui accueille le mieux les migrants?
C'est une bonne question qui n'est pas facile à répondre parce que c'est difficile de quantifier quels sont les pires, où sont les pires hébergements, les meilleurs hébergements, parce que dans un même pays, la qualité des hébergements varie énormément. Et dans un même pays, il y aura des personnes qui seront hébergées, des personnes à la rue. Je sais qu'en Allemagne, de ce qu'on m'a dit, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a le moins de personnes en situation de sans-abrisme. Par exemple, quand les demandeurs d'asile, on leur refuse l'asile, ils peuvent rester un long moment dans leur hébergement avant de devoir le quitter. Je sais qu'en France, les délais sont très courts pour qu'une personne quitte son hébergement. Donc, il n'y avait pas ces problèmes de sans-abrisme. Souvent, c'était la préoccupation numéro une des personnes que je rencontrais en précarité, c'était de pouvoir être hébergée. Mais par exemple, sur l'accès à l'emploi, au Portugal, les lois pour accéder à l'emploi sont beaucoup plus souples. Un demandeur d'asile peut commencer à travailler directement quand il arrive dans son pays. Et c'est le seul pays en Europe où c'est le cas.
Sur votre livre, on pourra le trouver où, ce livre ?
C'est un livre qui est déjà financé, qui ne sera pas à la vente, qui sera juste distribué. C'est distribué. Donc il y a une partie. Donc c'est un livre qui est à l'intérieur, le texte est en français et en anglais, et qui sera distribué aux associations avec qui j'ai rencontré, et qui sera aussi accessible à Rennes. Mais j'ai pas encore. C'est sûr qu'il sera accessible à la maison, à la MIR. Ce sera pas vraiment dans les librairies que j'avais en tête. C'était plutôt à la MIR, à la Maison de l'Europe. J'aimerais qu'il soit au champ libre.
Vous avez dit que vous étiez franco-britannique. Mmh. Vous êtes sujet britannique. Qu'est-ce que vous pensez de la politique migratoire de l'Angleterre?
Oui, la politique, moi je pense vraiment du mal de la politique britannique, mais alors qu'au début c'était un petit peu une blague qu'ils envoient les demandeurs d'asile au Rwanda, Maintenant, c'est ce qu'on appelle enfin, la politique d'externalisation, c'est d'utiliser les autres pays extérieurs pour traiter toutes les demandes d'asile avant que les personnes entrent au Royaume-Uni. C'est une politique que l'Union européenne tend vers cette politique d'externalisation avec le nouveau pacte qui a été adopté. C'est une politique que la France veut adopter, donc ça, sa loi immigration. Donc c'est vraiment alarmant. Moi, c'était le sujet de mon mémoire, la politique d'externalisation de l'Union européenne, qui est en violation du droit international et des droits fondamentaux.
Et dernière question, vous avez visité donc des camps de réfugiés en Italie et en Grèce. Est-ce qu'on peut parler des conditions de vie des gens là-bas? Qu'est-ce qui vous a marqué dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire le plus choquant et le plus satisfaisant? Enfin, s'il y a des choses qui permettent de se satisfaire.
Moi, ce que j'ai visité en Italie et en Grèce, il n'y a pas trop de satisfaisants, malheureusement. En Grèce, j'ai visité le camp de réfugiés de Lesbos, vraiment un des premiers camps d'accueil en Europe. Il y a une capacité de 2500 personnes. Dans le camp que j'ai visité, il y avait 5000 personnes quand j'y étais. Il n'y a pas d'électricité, il y a un repas par jour. Ça, c'était vraiment une des choses les plus choquantes, même de tout mon voyage. C'était vraiment le pire, je dirais, dans les conditions, dans les droits fondamentaux. C'est un camp qui est au bord de la mer, donc qui est en vent constant avec du sable constamment dans l'air. Et les demandeurs d'asile, ce sont des demandeurs d'asile qui y sont, vivent dans des grandes tentes. Vous voyez les grandes tentes de fêtes de jardin avec des rangées de matelas, mais pas tous un matelas. Et voilà, c'est là, c'est un repas par jour. Et il y avait, alors c'est sans compter les associations, parce qu'il y a des associations, mais il y avait 3 médecins pour ces 5000 personnes qui étaient là officiellement. Après, il y a les médecins des associations, mais sinon c'était 3 médecins pour ces 5000 personnes. En Italie, je n'ai pas visité de camp. Enfin, officiel, j'ai visité des centres d'hébergement associatifs. J'étais à la ville de Trieste, où la ville de Trieste refuse de prendre en charge les demandeurs d'asile qui y sont, et donc ils vivent dans un bidonville. Et donc là, bon, là les conditions sont... Enfin, il n'y a rien n'est fait pour ces personnes. Ils vivent en tente, et c'est tout pris en charge par les associations qui font... que j'ai rencontré, qui font des maraudes, qui ont un centre de jour, qui font des distributions de thé. Mais ce sont des personnes qui vivent en tente avec des rats dans un énorme hangar qui, selon moi, qui va s'écrouler à tout moment.
Comment vous avez-vous préparé mentalement pour ce voyage?
Mentalement, il n'y avait pas trop de préparation. Encore une fois, la crainte, c'était... Il y a eu beaucoup de grands débats animés et colériques. Et ils n'ont pas eu lieu, ces débats. Donc, la préparation... J'avais déjà travaillé avec des personnes immigrées. Je travaillais à la Maison des Femmes de Paris. Donc, j'étais en contact. Je connaissais parfois des récits des femmes avec qui j'avais travaillé. Donc, j'avais ça en tête. Mais il y a des choses... Je pense, honnêtement, pour lesquels on ne peut pas être préparé quand j'ai visité... Enfin, si on n'a jamais vu les bidonvilles que j'ai visitées, certaines histoires qui sont assez... qui sont tristes, qui sont très émouvantes. Et ça je pense et j'espère que ça m'a donné quand même une vision assez globale des différentes problématiques.
Ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Bye.
le venir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille,
de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
Je suis né quelque part.
Je suis né quelque part.
Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Donnez-moi une terre pour courir,
une main pour me tenir,
faire le tour du monde
afin de connaître ma famille. Et peu importe en quoi on nous dit de croire, on ne choisit pas sa chance.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas?
Pouvez-vous vous présenter?
Je suis Chloé, je suis chargée d'accueil et assistante administrative à Langue et Communication.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre travail?
Alors, j'accueille des personnes qui souhaitent apprendre le français et je les oriente vers le cours qui correspond le plus à leur profil en fonction de leur niveau et de leur situation. Je leur présente aussi les moyens de financer leur formation en français, langue étrangère. Et puis, je les renvoie vers mes collègues et je fais leurs inscriptions.
Pourquoi vous avez choisi ces organisations?
J'ai choisi de travailler ici parce que j'aime le milieu associatif, c'est une association. J'avais envie d'avoir du contact avec du public, de me sentir utile. Et puis ensuite, j'aime baigner dans cet environnement du français langue étrangère et pouvoir aider des personnes allophones au quotidien.
Est-ce que vos études et votre expérience professionnelle est en rapport avec l'apprentissage du français pour les étrangers?
Alors, j'ai fait des études de langue et j'ai un DAEFLE, donc un diplôme d'enseignement pour le français langue étrangère, mais je n'ai jamais exercé l'enseignement du français langue étrangère. Par contre, j'y suis sensibilisée et j'aime baigner dans ce milieu, en effet.
Quels sont les objectifs de votre travail à langue et communication?
Donc, j'accueille le public, des apprenants, des bénévoles, toute personne qui se présente à l'accueil. Je les réoriente vers les cours dont elles ont besoin ou vers des structures à l'extérieur. Je fais les inscriptions, je fais les factures, j'établis les conventions avec nos partenaires. Et puis, donc, je suis en fonction support pour mes collègues coordinatrices pour tout ce qui est administratif.
Quel cours il y a en langue et communication?
À langue et communication, on a plusieurs types de cours. On a nos cours modulaires qui sont à destination de personnes qui ont été scolarisées dans leur pays, qui ont les mêmes logiques d'apprentissage que l'on a ici et donc qui peuvent suivre des formations intensives et qui ont aussi des possibilités de financer cette formation, soit par France Travail, par le CCAS ou par des fonds propres. Et on a également nos actions de proximité, les ateliers de savoir sociolinguistique, là qui sont ouverts à des personnes qui n'ont pas forcément été scolarisées dans leur pays et qui répondent à un besoin aussi d'autonomie sociale à travers l'apprentissage du français. Et ça, ce sont des actions subventionnées. Donc, les personnes participent seulement en adhérant à l'association et donc payent une adhésion de 5 euros.
Est-ce que le travail avec les étrangers, c'est difficile ou facile ?
Alors, je trouve que c'est ni facile ni difficile. Je ne vois pas de différence entre le travail avec les étrangers et le travail quand je reçois, par exemple, des bénévoles donc français à l'accueil. Je suis confrontée en fait aux mêmes difficultés ou aux mêmes facilités qu'avec les étrangers. Voilà.
Est-ce que tu as beaucoup de questions qui ne sont pas en lien avec ce que fait Langue et Communication, de gens qui sont un peu perdus?
Oui, en effet, ça peut être la difficulté, c'est que, pour le coup, je pense être assez disponible et à l'écoute. Et donc, je pense que les personnes, et c'est ce qui me plaît dans ce travail, mais les personnes peuvent facilement se livrer et me poser des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Et c'est en ça que j'essaye de les orienter vers les bonnes structures. En effet, les personnes vont peut-être me parler de leurs difficultés administratives, mais sur d'autres plans que le linguistique. Donc, je vais les renvoyer vers les centres sociaux, leurs difficultés à créer, par exemple, un espace sur Internet. Et ben, je vais les renvoyer vers les espaces numériques qui existent dans les centres sociaux. Des difficultés liées à l'emploi, je vais les renvoyer vers les espaces ressources emploi. Pour leurs papiers aussi, donc je les renvoie vers des collectifs, enfin, ou vers des associations pour les sans-papiers du type la CIMAD. Donc, en effet, j'accueille beaucoup de questions, mais j'ai pas les réponses moi-même, donc je renvoie vers les bonnes structures. Cette connaissance, je me la suis faite au fur et à mesure, en fait, des questions et des expériences. J'ai demandé à mes collègues, je suis allée chercher les informations parce que pour pas laisser les personnes sans réponse.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les étrangers?
Alors, la difficulté, ça peut parfois être la langue. quand j'ai des personnes qui ne parlent pas du tout français, pas du tout anglais. Donc ça, c'est une difficulté. Et donc, parfois, l'impression que le message n'a pas été compris en face et que la personne, en fait, n'a pas eu de réponse à ces questions. Donc ça c'est difficile. L'autre difficulté, c'est d'accueillir des personnes qui parfois sont démunies, ont des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, ou bien recherchent quelque chose que je ne peux pas leur apporter. Vont chercher des cours de français, mais on n'a plus de place dans les cours de français, par exemple. La difficulté, c'est de devoir refuser et renvoyer les personnes et leur dire de revenir 6 mois plus tard.
Vous pouvez parler de la nouvelle loi qui restreint l'accès au statut par des critères linguistiques.
Donc, en effet, il y a une loi qui a été votée en janvier qui est sur d'un point de vue linguistique qui rehausse en fait le niveau de langue à avoir pour obtenir un titre de séjour, une carte de résident ou la nationalité française. C'est-à-dire que, par exemple, pour la nationalité française, on demande un niveau B1 à l'oral et à l'écrit actuellement, et cette nouvelle loi demande un niveau B2. Cela dit, les décrets d'application de la loi ne sont pas encore publiés, donc à l'heure actuelle, au moment où je parle en juin 2024, c'est toujours le B1 qui est demandé pour la nationalité et le A2 pour la carte de résident. Et cela va changer certainement dans les semaines qui viennent. On n'a pas encore, nous, alors qu'on est les premiers concernés, puisqu'on est centre d'examen pour le TCF, le test de connaissance du français, que les personnes passent justement dans ces cadres-là de demande de carte de résident et de demande de nationalité. Mais on n'a pas encore été informé de ce changement officiellement. Et pour l'instant, le test TCF-IRN est toujours basé sur la validation du A2 et du B1.
Merci Chloé.
Et bah, de rien.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, Radio Curieuse.
I don't know.